Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Le 30 avril, le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage lançait au ministère des Outre-mer le mois des mémoires de l'esclavage et des combats pour l'égalité qui se déroule jusqu'au 10 juin et vous y étiez, Christiane Taubira, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes notre invité ce matin, faut-il le rappeler, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de même que vous ferez partie du voyage avec François Hollande à partir de demain et jusqu'à lundi qui vous mènera à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, la Guadeloupe, Cuba et Haïti. N'oubliez pas la crème solaire et l'anti-moustique. Le 10 mai, la journée de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions sera le point d'orgue de ce déplacement puisque François Hollande inaugurera à Pointe-à-Pitre le mémorial ACTE, acte, hein, il faut dire comme ça, hein, autrement nommé Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Et aujourd'hui, Christiane Taubira, votre livre « L'esclavage raconté à ma fille » qui était paru déjà en 2002 et réédité chez Philippe Ray. Et nous essaierons de voir de quoi il retourne aujourd'hui et comment la mémoire de l'esclavage est-elle intégrée à la mémoire nationale et quels efforts, et on sait qu'il y en a encore tout de même quelques-uns, quels efforts restent-ils à faire? La traite négrière et l'esclavage sont reconnus depuis 2001 en France grâce à la loi que vous avez portée, il faut bien le rappeler, en tant que député, comme crime contre l'humanité. Il faut se rappeler, peut-être osons le parallèle, vous nous direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui en Méditerranée, des migrants exploités par des trafiquants sans trop de vergogne meurent chaque jour. Est-ce là un nouveau crime contre l'humanité en train de se jouer aux portes de l'Europe qui aurait au fond le triste visage d'un esclavage aujourd'hui moderne, ressemblant, qui sait, par quelques points à l'esclavage des temps jadis. Mais règle du jeu oblige, Christiane Taubira, Madame la Ministre, nous allons parler et aborder quelques sujets d'actualité. Alors je disais quand même tout de même en préambule, que parfois il faudrait avoir l'image. Et oui, parce que regardez qui il y a autour de vous. Maëva Présent, bonjour. Présenté, c'est ça qu'il faut dire, comme ça? Non, Maëva Présent. Ophélie Mondésir Carabin, bonjour. Lucas Jean,
bonjour.
Salut, bonjour. Tiffaine Prudenté.
Ouais,
voilà, présente. Non, elle n'est pas au collège, les amis, là. Avec, accompagnée par Stéphane Carnal, bonjour.
Bonjour.
Et accompagnée par, que je retrouve mon nom, par monsieur Camille Saint-Cily. Voilà, vous êtes, vous, le patron, si j'ose dire, pour parler dans un micro, le principal du collège.
Le collège Sadi à Pointe-à-Pitre.
Ils arrivent de Pointe-à-Pitre. Mmh. Pour quelle raison? Parce que ces jeunes gens-là ont gagné un concours du CSA sur un épisode relatant la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et notamment la question de la Guadeloupe et de l'apport de la Guadeloupe à la libération de la France, mais avec ces triste par moments épisode hein, de ceux qui furent considérés comme des insoumis alors qu'ils étaient tout simplement résistants. Ils seront là très attentifs.
Ce sont les dissidents.
Voilà. Alors ils seront là très attentifs et seront amenés à vous poser des questions, peut-être qui sait plutôt en deuxième partie sur toutes les affaires relatant à la mémoire et à l'esclavage. Bon, tout d'abord, Christiane Taubira, dites, vous êtes vraiment toujours bien dans votre fauteuil, garde des Sceaux, place Vendôme, avec cette loi sur le renseignement qui est votée, Manuel Valls qui serait un glaive, François Hollande un bouclier et toutes les associations internationales, la presse mondiale qui dit que cette loi du renseignement française n'est ni faite ni à faire.
Ça se voit pas. Non, mais très, très sérieusement, ce texte de loi, il y avait une vraie nécessité parce que les services de renseignement n'avaient pas un cadre juridique qui indiquait comment était contenue leur activité. Donc, est-ce que vous pensez, vous, que c'est une situation qui aurait dû durer? La dernière loi sur le renseignement date de 1991. Elle avait d'ailleurs été élaborée par la gauche. Et en fait, elle a mis en contrôle les interceptions de sécurité. Et elle a créé cette commission qui contrôle effectivement la mise en place des interceptions de sécurité. Je rappelle qu'on n'est pas dans une procédure judiciaire, parce que dans les procédures judiciaires, les dispositions sont contenues déjà
dans le code de procédure. Elle vous a échappé, cette loi, Christiane Taubira.
De pénal, en quoi elle m'a échappé? Elle ne concerne pas que la justice. C'est une loi qui concerne essentiellement les services de renseignement qui sont sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Mais évidemment, au contraire, la justice était très impliquée dans la mesure où il ne s'agit pas simplement d'encadrer et de préciser les conditions dans lesquelles les services de renseignement pouvaient avoir recours à des techniques de recueil de renseignements, mais bien d'assurer le contrôle juridictionnel. Et là, j'ai pris toute ma place, et y compris lorsque les dispositions que nous avions mises dans le projet de loi ont été modifiées et fortement restreintes par la commission des lois de l'Assemblée nationale, j'ai pu rétablir notamment les procédures de droit commun par le Conseil d'État, notamment la possibilité par un référendum conférer liberté d'avoir d'enclencher une procédure d'urgence et notamment surtout la possibilité pour le Conseil d'État de renvoyer l'affaire devant la section du contentieux ou l'Assemblée du contentieux. Donc il y a un vrai contrôle juridictionnel dans l'activité, face à l'activité de recueil de renseignements.
Vous savez bien que ce qui coince quand même tout de même, c'est cette petite phrase-là. Hein. Le projet de loi légalise ainsi, je cite, la possibilité d'une collecte systématique, généralisée et indifférenciée des données de connexion. On n'est quand même pas loin de l'atteinte aux libertés fondamentales.
De toute façon, la surveillance est une atteinte aux libertés. Il faut arrêter de se raconter des histoires. La surveillance
est une atteinte. Il faut en passer par là aujourd'hui.
Écoutez, nous avons quand même en face, la question centrale, c'est quand même celle du terrorisme et des risques du terrorisme. La loi ne traite pas que de cela, mais la question centrale. Alors, on voit bien que les terroristes, aujourd'hui, ont une maîtrise phénoménale des nouvelles technologies, du numérique. Ils ont une vraie maîtrise de tous ces instruments. Il faut que nous soyons en capacité de repérer, de prévenir, de détecter, d'empêcher la commission. C'est comme ça le renseignement administratif.
Ça veut dire qu'il faut qu'on abandonne un certain nombre de libertés,
Stéphane Robert.
Non, justement, je n'arrête pas de dire qu'on n'a pas à renoncer à nos libertés. Et le président de la République a dit très clairement que ce texte de loi devait se concevoir dans le cadre de l'état de droit. C'est un engagement du président de la République. Et l'état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement que lorsqu'il y a nécessité de donner les moyens de surveiller, il faut qu'en face, il y ait tous les contrôles. Nous avons plusieurs étapes de contrôle. Il y a l'autorité administrative indépendante qui doit être systématiquement informée et donner un avis avant tout recueil d'informations. Ensuite, c'est le Premier ministre, donc responsabilité de l'exécutif, c'est le Premier ministre qui donne l'autorisation. Après, si on n'est pas content, il y a le Conseil d'État. Mais avant cela, si par exemple la Commission a donné un avis défavorable et que le Premier ministre autorise quand même, nous avons mis dans la loi la possibilité pour la Commission de saisir le Conseil d'État. Et le Conseil d'État peut décider, même si le Premier ministre a donné l'autorisation, le Conseil d'État peut décider de l'interruption immédiate du recueil, donc de l'annulation de la décision du Premier ministre. Il peut décider de la destruction des données qui ont déjà été collectées. Et il peut décider aussi d'indemnité, oui. De et faire bon, l'État pour vous, indemniser.
Pour vous, ça suffit. Enfin, je voulais citer la représentante de l'OSCE, Dunja Mijatović, qui dit hier, représentante de l'OSCE pour la liberté de la presse, elle dit « Les nouvelles méthodes de surveillance et d'enquête affecteront le droit des journalistes à protéger la confidentialité de leurs sources et l'ensemble de leur travail. Elle en appelle à la mise en place d'un environnement de communication digne de confiance, à défaut de quoi ?» Le droit des journalistes à rechercher et obtenir de l'information dans l'intérêt général serait gravement remis en cause. C'est pas vrai ce qu'elle dit.
Je suis pas sûre qu'elle ait regardé le texte tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale, parce que justement, par amendement, nous avons introduit, amendement du gouvernement que j'ai porté, nous avons introduit la protection de certaines professions qui doivent être protégées parce qu'elles sont les garantes de la démocratie. Protégées non pas parce qu'elles ont des secrets, mais parce que ces secrets-là sont des garantes de la démocratie. Donc les journalistes pour le secret des sources, les avocats pour le secret de la défense, les magistrats pour le secret de l'enquête, du délibéré et de l'instruction, et les parlementaires pour... Donc il y a des dispositions particulières. Effectivement,
alors attendez, comment expliquez-vous, pardonnez-moi, mais que l'OSCE, la Commission consultative des droits de l'homme et bien d'autres associations soient tout de même inquiets, tout simplement. Sont inquiets de comment sera composée la future instance de contrôle, de comment on contrôlera au fond tout ça. Vous nous avez décrit quelque chose, certes, qui a l'air assez bien boutiqué, mais qui ressemble tout de même aussi à une sacrée usine à gaz, quand même, Christian Taubira. Comment rassurer ceux qui disent tout de même, attention, il y a une vraie dérive, et le jour où cette loi est dans les mains de gens qui sont peut-être moins scrupuleux sur la question des droits de l'homme, cette loi, elle est quand même foncièrement dangereuse sur les questions de liberté individuelle.
C'est un sujet... Non, mais on peut obstinément, sans regarder le contenu de la loi, sans regarder l'évolution du texte, on peut obstinément répéter des inquiétudes. J'entends les inquiétudes parce que c'est un sujet majeur. Moi, je me suis exprimée à l'ONU moins d'un mois après les attentats de Paris. Et j'ai expliqué, et je peux vous dire qu'il y avait un soulagement général dans la salle, quand j'ai dit que la France ne fera pas un patriotat à la française.
D'autant que le Patriot Act n'a rien donné, objectivement. Ce n'est pas par le Patriot Act qu'on a pu arrêter les gens qu'on a arrêtés, finalement.
Tout à fait. Et nous affirmons, et c'est pour ça que je rappelais l'engagement du président de la République, nous affirmons, mais admettez qu'il y a quand même la nécessité de protéger les gens. Admettez qu'il y a même la nécessité d'assurer la sécurité. Admettez qu'il vaut mieux quand même repérer des personnes qui sont en train de préparer des actes et empêcher la commission de ces actes. Admettez-le. Maintenant, il se trouve que justement, tout ça se fait essentiellement par ces technologies-là. Si on était dans un autre monde, ça se fait essentiellement par ces technologies-là. Et la surveillance massive, elle se fait, enfin, indépendamment des services de sécurité, hein, je dis que le fait de contrôler sur Internet, d'avoir, moi, la débauche de mails que je reçois de gens que je ne connais absolument pas et qui sont des mails de marketing, etc., la débauche de choses que je reçois. Moi, depuis 2 ans, je me bats à Bruxelles pour qu'on avance sur le projet de règlement et le projet de directive sur la protection des données personnelles. Donc voilà, il y a quand même une réalité d'un monde d'aujourd'hui avec le numérique qui facilite l'accès à des tas de choses. Et on constate, parce qu'on a fait des fixations sur les prisons sont concernées à 14% maximum, à 14% par la radicalisation. Le reste de la radicalisation, elle se fait ailleurs. Elle se faisait dans des mosquées jusqu'à maintenant. Les services de renseignement eux-mêmes disent que ça décline dans les mosquées, justement parce que c'est public, c'est visible, donc le contrôle, la surveillance sont plus... Donc c'est de plus en plus sur Internet. Est-ce qu'on n'en tire pas de conséquences ? Donc moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer que, le gouvernement ayant tiré les conséquences de la nécessité de s'armer, lui, sur la surveillance et le contrôle, que nous garantissions aux citoyens la protection de leur liberté. Et ce que je dis est très précis et très clair. Nous permettons aux citoyens, le citoyen, quel qu'il soit, s'il pense qu'il est surveillé, il peut saisir le Conseil d'État. C'est dans la loi. Il peut saisir le Conseil d'État. Il peut le saisir en urgence.
Le Conseil d'État va donc être saisi par des millions de gens, Christiane Taubira.
Comment ?
Le Conseil d'État va être saisi par des millions
de gens.
Nous verrons.
Parce que c'est un vrai sujet sur la démocratie. Qu'est-ce que la société est prête à accepter ? Jusqu'où elle est prête à aller ? Nous, aux responsabilités, nous disons que nous voulons armer les services de renseignement pour qu'ils fassent du renseignement administratif. Mais nous mettons en place les limites à l'activité de ce service de renseignement et nous assurons les conditions d'un vrai contrôle juridictionnel. Voilà. Et si demain il y a des millions de citoyens, ben on avisera.
On
veille à la préservation des libertés.
Je fais une parenthèse pour nos jeunes amis lycéens aujourd'hui, que s'ils ne savaient pas ce que voulait dire le mot éloquence, ils l'ont désormais compris en la personne de Christiane Taubira, l'éloquence qui se perd en soi-disant, voyez l'exemple précis en la personne de Madame la Ministre. Bon, cela dit, vous en tirez pas comme ça, Christiane Taubira. Dans ces cas-là, puisque vous défendez le droit des citoyens, vous trouvez normal, vous, que le Premier ministre parle des gens qui s'expriment et des citoyens qui expriment leur inquiétude et leur opposition au texte, en parle en disant qu'ils font des pressions. C'est bien adroit, ça.
Non, mais je pense que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on admet que dans la période où nous vivons, il y a de vrais dangers et est-ce qu'on admet que la société doit s'y impliquer ? Moi, je dis oui. Mais ça fait des semaines que je n'arrête pas de dire que cette vigilance civique, elle est bienvenue. Et j'espère bien qu'elle va pas s'atténuer. J'espère bien qu'on va pas tourner la page et après s'intéresser à des choses désinvoltes. J'espère bien que la société, il faut qu'on ait face à un sujet démocratique. Comment on protège ? Si on avait pu protéger les personnes qui ont été victimes de ce qui a déjà été fait, on aurait tous quand même été plus contents. Donc comment on protège et en même temps comment on préserve les libertés ? Le sujet n'est pas facile. Et il est bon, effectivement, que la société s'en mêle. Simplement, moi, je demande qu'on s'en mêle honnêtement. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a dans le texte, qu'on critique. Nous avons entendu des choses. Il y a des débats. Moi, j'ai été... Vous savez bien qu'il y a des amendements que j'ai présentés et qui ont été rejetés. Pas d'ailleurs rejetés massivement par la gauche. Rejetés par... plutôt massivement par la droite, qui d'ailleurs jouait à contre-emploi bizarrement par moment. Donc, voilà, il y a des désaccords. Il y a, par exemple, l'Assemblée nationale, elle avait voulu juste une petite formation restreinte de 3 magistrats. Oui. Point final. Bon, ben, vous avez vu la bataille que j'ai menée pour qu'on en revienne à des procédures de droit commun, pour qu'on ait une formation, mais une possibilité d'aller à la section du contentieux, à l'Assemblée du contentieux, qu'on puisse avoir la procédure du référé liberté ou référé mesures utiles. Donc voilà, et ça maintenant c'est dans le texte. Alors si on veut continuer à critiquer le texte où il y avait juste une espèce de petite juridiction d'exception à l'intérieur du Conseil d'État et ne pas voir ni entendre que maintenant on a des procédures de droit commun, on peut jouer à ça pendant longtemps.
Ce n'est pas vous que je dirais que ça fait partie, après tout, des règles de la démocratie. Bon, mais si l'État peut donc surveiller ainsi tout le monde en toute impunité, Robert Ménard a bien raison à Béziers de ficher les élèves, de savoir si c'est qui, le pourcentage de musulmans qu'il a dans ses classes.
Non, l'État ne surveille personne en toute impunité, puisque je viens de vous rappeler que le Conseil d'État peut décider d'annuler une décision du Premier ministre. C'est quand même pas banal que le Conseil d'État puisse décider d'annuler une décision du Premier ministre sur de la surveillance. C'est pas un sujet banal et l'acte d'annulation n'est pas banal. Ensuite, je vous rappelle que pour la première fois, des magistrats seront habilités secret défense. C'est la première fois dans notre histoire. C'est quand même nous qui l'avons mis dans la loi. C'est-à-dire, et il y avait des oppositions fortes, y compris à l'Assemblée nationale, parce que cette formation restreinte de 3 magistrats, c'était justement pour qu'il n'y ait que 3 magistrats habilités secret défense nationale. Or, nous, y compris les magistrats de l'Assemblée du contentieux, seront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, les magistrats qui ont besoin d'avoir accès à un document classifié secret défense demandent gentiment le document ou ce qu'il y a dans le document. On peut leur répondre gentiment, ça ne vous regarde pas. On peut leur répondre gentiment, on vous donne tout. On peut leur répondre gentiment, on vous donne la moitié ou le quart. On peut leur répondre gentiment, ce qu'il y a dedans n'est pas grave, ça ne vous regarde pas. D'accord ? On peut leur répondre ça.
L'essentiel, c'est de répondre gentiment, si j'ai bien compris.
Aujourd'hui, on peut même pas gentiment d'ailleurs. On peut même leur répondre non gentiment. Aujourd'hui, ces magistrats auront accès directement aux documents classifiés secret défense. On ne fait pas comme s'il n'y a pas ça dans la loi. Donc moi, je veux les débats. Je suis très attachée aux libertés et très préoccupée aussi par les risques, y compris avec de bonne foi les risques qu'il peut y avoir.
Donc on n'avait rien compris quand chez nos amis de Europe 1, vous aviez dit que si vous n'aviez pas fait du gouvernement, vous auriez pu manifester contre cette loi.
Non, j'ai dit très clairement, très précisément, très vite d'ailleurs, hein, puisque la question...
Ah, la radio, vous savez, ça
Mais oui, ça va très très vite parfois. Non, ce que j'ai dit, c'est que j'aurais été en face, mais oui. Mais moi, même de l'intérieur, avec la possibilité d'agir sur l'écriture, ce que j'ai fait, toutes les dispositions qui concernent le contrôle juridictionnel, c'est le ministère de la Justice, y compris une partie des missions de la Commission nationale de contrôle, c'est le ministère de la Justice. Donc voilà, je dis que je suis dans la situation de pouvoir améliorer le texte. Je ne suis pas en face en train de dire, attention, attention, ne nous faites pas une monstruosité.
Vous posiez hier la première pierre du futur tribunal de grande instance de Paris, la réalisation est confiée à Renzo Piano, alors que la réforme pénale n'est pas du tout encore adoptée, donc le bâtiment sera fait, mais la réforme pénale, elle ne sera pas finie complètement.
Ah non, mais il faut qu'on vous fasse... Non, il faut qu'on vous tienne au courant.
Ça met du temps quand même.
Ça ne vous regarde pas. Non, ça ne vous ressemble pas. Je voulais dire, pardon, c'est un lapsus. Donc non, la réforme pénale a été adoptée le 14 août 2014. Les décrets d'application ont tous été publiés, c'est-à-dire que les premières dispositions de la réforme pénale sont entrées en vigueur en octobre 2014, les dernières en janvier 2015. La réforme pénale est donc déjà en application. Une de ses mesures phares, la contrainte pénale, qui est une peine d'exécution au milieu ouvert, est déjà prononcée, appliquée. Il y en a eu 506 de prononcées dans une centaine de tribunaux. Donc non, la réforme pénale est en œuvre et elle va effectivement améliorer la prévention de la récidive et empêcher de nouveaux actes et de nouvelles victimes.
On en est où alors, puisque je ne suis pas à jour sur le secret des sources, la question du secret des sources par rapport aux journalistes?
Alors le secret des sources, c'est un texte que j'ai déposé il y a maintenant au moins 18 mois à l'Assemblée nationale, qui n'est juste pas encore programmée par l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Oui. Nous sommes dans une démocratie avec une séparation des pouvoirs.
C'est bizarre quand même, ça met autant de temps, ça. Mais c'est un sujet grave.
Moi, ça me contrarie. J'en ai reparlé en décembre à l'Assemblée nationale. J'étais en audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Plusieurs parlementaires, d'ailleurs, étaient impatients eux-mêmes et s'étaient engagés à faire en sorte... On a même envisagé... Alors non, je leur en ai parlé en novembre, puisqu'en décembre au Sénat, on a essayé de prendre quelques dispositions pour les introduire dans un autre texte de loi, ce qui me paraît pas satisfaisant, parce que le secret des sources, vous savez, nous avons introduit quand même le contrôle du juge des libertés de la détention pour protéger les journalistes. Nous avons supprimé le délit de recel de détention de sources. Donc voilà, nous protégeons davantage et moi j'aimerais bien que ce texte entre en application.
Chain Gang de Sam Cooke qui fait partie de la compilation Slavery in America que vous avez préfacée, éditée par Frémaux et associé Christiane Taubira, et ainsi pour annoncer que nous parlons en deuxième partie de votre livre L'esclavage raconté à ma fille aux éditions Philippe Ré. Il faut que je dise à nos amis Maëva Présent, Ophélie Mondésir Carabin, Tiffaine Prulanté, Luc Agen, il faudra que vous n'hésitez pas à prendre la parole parce que vous avez vu que la ministre la tient quand même très bien. Donc à vous de jouer dans la deuxième partie qui sera bien sûr introduite par Brice Couturier comme chaque jour. Bonjour Brice.
Bonjour Marc, bonjour Madame la Ministre, bonjour à tous. Oui, je voudrais vous parler de votre livre « L'esclavage raconté à ma fille ». Il y a certainement urgence à faire la lumière sur les crimes contre l'humanité commis dans le passé par les Européens, mais n'y a-t-il pas aussi urgence à combattre bien l'esclavage héréditaire qui sévit encore au Mali, au Niger, en Mauritanie, ou bien les abominables marchés aux esclaves qu'organise sous nos yeux aujourd'hui le groupe djihadiste Daesh en Irak et en Syrie.
Et ce sera dans un quart d'heure, Christiane Taubira sur France Culture, après le journal de 8h.